Les Cascodeurs Podcast, épisode 265. Chérie, ça va couper. Enregistré le 8 octobre 2021. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs, l'épisode 265, où je suis accompagnée de Arnaud et d'Emmanuel.
Hello.
Salut les garçons. Ça va?
Ça va.
Et toi?
Ouais. Bah moi ça va.
C'est longtemps, ça fait plaisir.
Et oui, bah oui. Et je pouvais pas être avec vous la semaine dernière, donc parce que je vous aime, hein, mais j'aime plus mes vacances. Voilà.
Vous verrez comment bronzer, c'est pas juste.
C'est odieux, hein. Ouais.
T'es obligé de rendre plus foncé la vidéo, sinon ça brûlait les yeux. Alors que Arnaud, au contraire.
Alors, moi, c'est tout blanc, ouais, c'est clair.
Yes.
Je vous propose qu'on attaque directement cet épisode news donc, avec on a eu quelques annonces intéressantes sur la partie langage de la part d'Oracle. La première, c'est que maintenant les LTS vont être tous les 2 ans au lieu de tous les 3 ans.
Ils proposent.
Oui, voilà, ils proposent. Faut encore que ce soit accepté.
Après, historiquement, ils proposent. Ils proposent, quoi.
Ils proposent et c'est auto-accepté.
C'est auto-accepté.
Donc déjà ça fait que la prochaine LTS ce serait pas la 23 mais ce serait la 21. La raison invoquée en fait c'est que ils se rendent compte, ils ont fait une enquête auprès des développeurs, ils se sont rendu compte que il y avait entre un quart et la moitié qui utilisaient les releases de 6 mois en dev, mais que sur ce entre un quart et la moitié des personnes, seulement la moitié d'entre eux l'utilisaient en prod. Donc l'idée c'est de d'aider à l'adoption. Par contre, on n'a pas effectivement de détails sur le Security Patch Support gratuit, puisqu'en payant c'est 8 ans, mais il faut payer. Voilà.
Oui, parce que historiquement c'est Oracle pendant un certain temps, et puis après c'est à qui veut bien. Et donc Azul l'avait fait, Microsoft peut-être en ce moment, je me rappelle plus, Red Hat l'a fait. Voilà, donc il y a des versions qui sont historiquement gardées. Protégé en termes de sécurité, de backporting de patch par d'autres sociétés, du coup, quand ça va un peu au-delà de ce qu'Oracle met en énergie là-dessus. Et vous en pensez quoi, vous? 2 ans, c'est mieux?
Je pense que c'est pas idiot, ouais, pour essayer de faire grimper l'adoption.
Parce qu'on voit bien que moi je vois à côté de mes clients, etc., mais c'est vrai que de toute façon, il y a que les LTS qui comptent. De toute façon, quand tu fais ça à titre professionnel, tu fais joujou avec les intermédiaires, mais pas plus. Donc effectivement, c'est vrai que 3 ans, ça fait quand même un petit bout de temps avec les releases qui sont là tous les. Je pense que c'est pas mal. Et puis ça permet maintenant qu'ils ont pris leur rythme, qu'ils ont pu tester régulièrement avec la cadence des 6 mois, etc. Je pense qu'ils ont trouvé leur rythme. Donc maintenant, ça va permettre d'avoir des livrables tous les 2 ans qui arrivent régulièrement. Je trouve ça bien. 2 ans, c'est bien. 3 ans, c'est vrai que c'était un petit peu lent. On l'a bien vu, hein, là, la preuve. Encore beaucoup de gens en 8, en 11. Bon, après, il y a plein de raisons derrière ça. Mais ouais, tous les 2 ans, ça me semble bien, franchement.
Ouais, moi, je suis moins motivé que vous.
Ah ouais?
Alors déjà, il y a des clients, c'est plutôt... On a installé cette appli en Java X et puis du coup, on va y rester jusqu'à la fin de la vie. Parce que c'est pénible.
Classique.
Et justement, moi, je me pose des questions sur l'écosystème qui est au-dessus, et surtout parce que s'ils disent non, mais jamais, on va rien casser, il y aura jamais de problème, vous allez pouvoir toujours faire tourner ancien, futur, avec les nouvelles API et les anciennes API, hein. Ok, mais bon, on a vu Unsafe, on a vu les modules, on va voir le Security Manager qui va péter. Et du coup, enfin, qui va pas péter, il va disparaître. Et du coup, c'est une question intéressante. Est-ce qu'une librairie, elle reste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'avoir plusieurs versions parallèles à chaque fois qu'il y a un truc qu'ils utilisent et qui casse, en fait, entre deux versions du JDK. Donc, c'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que ça risque peut-être d'exacerber. Ça va diluer potentiellement le ralliement de tout le monde sur l'LTS. Là, il y aurait peut-être une plus grande diffusion en termes de choix de LTS. Donc, je suis un peu mitigé, j'avoue. Du point de vue d'un, voilà, d'un contributeur de librairie ou d'un éditeur, en fait, c'est une chose un peu similaire.
Ouais, je comprends. Bah après, t'as les multijars, hein, les fameux multijars. Non, je rigole, mais je comprends effectivement c'était une blague. Personne n'utilise ces trucs-là. Mais effectivement, pour avoir la compatibilité, si tu touches sur des trucs qui sont retirés, etc. Enfin, après, je pense qu'ils vont rester sur cette lancée de faire du ménage et donc de déprécier, de retirer. Enfin, ça reste quand même ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Je pense qu'ils vont continuer là-dessus. Ouais, ça peut être compliqué sur les mainteneurs, savoir s'ils doivent faire plusieurs. Enfin, après, ça oblige peut-être aussi. Ça dépend de l'écosystème. Si l'écosystème suit justement, est-ce que je sais pas. Enfin, donc on aura la. Donc là, on est en 17. Donc si c'est la 21, etc. qui est la prochaine LTS, ça va peut-être dire que la 17, elle reste juste en bug fix. Enfin, ta librairie que t'as écrite en 17, elle reste à partir de maintenant en bug fix releases. Et tes nouveaux développements seront en 21. Bon, certainement avec une version d'écart au final, mais. Je sais pas, il y a peut-être aussi, ça dépend de comment l'écosystème va vouloir faire avancer les choses et surtout ce qu'il y a dedans, puisqu'au final, ce qui drive l'adoption des versions de Java et des LTS, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. On a bien vu que finalement Java 11 a pas vraiment eu beaucoup d'adoption parce qu'il y avait pas de choses super intéressantes. Il y avait un petit peu de perf, d'amélioration, de trucs comme ça, mais plus de problèmes que de solutions. La 17, avec les améliorations dans le langage, tout ce qui a été rajouté, a peut-être plus de chances d'attirer les foules de développeurs, on va dire, que la 11, j'ai l'impression. La 11, voilà, était vraiment orientée nettoyage, plus les modules bon qui cassent les pieds à tout le monde, plus qu'autre chose. Donc, je sais pas, il y a aussi ce trade-off entre le gain de la LTS, et donc, effectivement... Si dans tous les deux ans il y a quelque chose de super intéressant qui motive les gens à bouger, ils ont peut-être envie de bouger. Mais je suis d'accord avec toi que ouais, dans les grands comptes, les entreprises classiques où c'est plutôt la mode, je touche rien tant que ça marche, je change rien. Bon, mais ça on aura toujours, je pense, le problème. Voilà, enfin toi comme moi, on doit toujours avoir des clients en Java avec des versions 6, 7, et des trucs comme ça qui sont rigolos. Mais oui.
Voilà. Bon, en tout cas, c'est notre point de vue, enfin, notre échange.
On verra ce que l'avenir nous dira, en fait. Hein, si...
Yes. Ouais.
Et l'autre annonce d'Oracle ce mois-ci, c'était que Oracle va offrir Oracle JDK gratuitement avec support pendant une LTS plus un an, donc 3 ans au total. Je vois la tête d'Arnaud. Donc à partir de Java 17 et au-delà, c'est sous licence NFTC, donc c'est Oracle No Fee Terms and Conditions. Et alors Emmanuel, toi tu te demandais, tu nous avais mis très subtilement dans les commentaires, ils en ont marre d'avoir de la compétition.
disons que ça s'est un peu multiplié les distributions là récemment.
Bah c'est ça.
Il y a celle de Microsoft, celle de AWS, là, pour les plus récentes, et puis celle de Red Hat, celle d'Azul, celle de. La grand-mère d'Arnaud en a fait une récemment, voilà.
Mais tout le monde.
C'est ma préférée d'ailleurs.
Mon fils est en train d'en coder une, non, mais après, enfin, ils ont joué au chat et à souris.
Mais bon, après, voilà, chacun son marché, quoi.
C'est bien, Java 1.1. Avec des applets partout. Ouais, je sais pas, moi, personnellement, il me fatigue, là. J'avoue que l'annonce, enfin, c'est juste, c'est juste une blague.
Arnaud est un peu nerveux, hein, je sais pas si vous avez remarqué.
Non, mais je trouve, moi, je sais que pour nous, ça nous a impacté parce que c'est vrai que avant, donc c'était, je me rappelle plus de la date là, quand ils sont passés leur Oracle JDK en version licence, etc. Tout le monde les a fui, hein, parce que faut se mettre à payer même pour l'avoir dans des contextes de CI, etc. Donc tout le monde est parti sur du Open JDK et les X variantes qu'il peut y avoir aujourd'hui. Et puis là, tout d'un coup, ils se rendent compte que oups. hop, on a fait une bêtise, on va revenir en arrière. Bon, après, c'est pas pour demain, hein, puisqu'il parle de Java 17 et plus. Alors, donc là, on est en train de discuter tout à l'heure que
pour
bon.
Aujourd'hui, parce que 17, c'est, oui, enfin, c'est pas pour celle passée.
C'est pour les, la, celle d'aujourd'hui, mais les projets, enfin, les entreprises vont pas passer à Java 17 avant un certain temps. Donc ils vont, enfin je sais pas, s'ils vont réussir à récupérer, à rattraper le fourbi qu'ils ont fait là ces dernières années avec, parce que faut l'avouer, avant qu'ils fassent leur changement de licence, tu demandais à n'importe qui, n'importe quel client, n'importe quelle entreprise, c'est quoi ta distro Java? Bah, c'était celle d'Oracle, hein. Enfin, tout le monde utilisait celle d'Oracle. Hein. C'est... Elle était partout. Et alors là, ils ont tué le truc. Maintenant, t'as de l'OpenJDK, t'en as 50 millions de versions. Ce qui pose pas de soucis pour le coup, moi j'ai vu très peu de soucis de avec les différents variants, parce que c'est quand même le gros risque, hein, de se dire, moi je sais que en tant qu'éditeur, à ce niveau-là, on se disait, oh là là, ça va être quoi? Ça va marcher avec Azul, mais pas avec machin, Red Hat il va marcher. Alors, non, ça... bon, honnêtement, on est quand même chanceux que c'est bien couvert et que ça en test et que ça marche bien, mais bon. Mais j'avoue, ouais, je comprends, enfin je comprends le move, mais ça fait plutôt on est à la bois, on sait plus. On a perdu toutes nos installations. Ouais, t'as les commerciaux derrière, mais plus personne vote notre truc parce que bah, les gens ils vont utiliser d'autres trucs. Bon, je sais pas.
Ouais. Alors la licence, alors je sais pas quelle était la licence avant. Hein. Ça se trouve elle était encore plus particulière. Mais là c'est la No Fee Terms and Conditions de Oracle. Lisez parce que leur définition de prod c'est peut-être pas la même que la vôtre. Donc je vous encourage quand même à lire. Il y a la notion de interne. Alors. Interne aujourd'hui, c'est toujours un peu subtil. Voilà. Donc, je crois que c'est Stéphane Colborn qui disait, j'ai des secondes pensées là. Lisez la licence quand même. Voilà. On en reparlera de Stéphane d'ailleurs un peu après.
Ouais, on en reparlera. Et avant ça, on va parler d'une JEP qui arrive dans le JDK 18, la JEP 400, avec laquelle le charset par défaut va enfin passer à UTF-8. Voilà, tout arrive plutôt à point.
Par plateforme.
Voilà, puisque alors bon, c'était pas vraiment un problème pour les systèmes Unix. C'était plus que sur les systèmes Windows, c'était problématique. Et donc dans le JDK 17 d'ailleurs, il y a une propriété système qui s'appelle Native Encoding qui avait été introduite par exemple si vous voulez lire un fichier avec. Et donc là bon, a priori voilà, ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais vous pouvez quand même tester avec un -d file encoding UTF-8 pour voir s'il y a pas de souci à la migration.
Windows 12 52 pour jusqu'à la fin des temps.
CP 12 52, c'est ça.
CP 12 52.
CP 12 52.
C'est ça. Ouais.
Quelle horreur. Bon, prochaine chose, on va essayer d'unifier les file systems parce que c'est pareil, hein, le slash, l'anti-slash. Bon, on va peut-être.
Ouais, ça c'est pas un aveil quand même. Ouais.
Ouais. Attends, il y a du Linux là dans Windows 11. Il paraît que la meilleure amélioration de Windows 11, c'est les améliorations qu'ils ont fait dans l'intégration là dans le WSL. Donc, c'est jamais. Hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont vraiment jeter toute la partie Windows qui restait. Hein.
Tu rêves.
Bon, je rêve. Ok. Oh là là.
Non, mais c'est bien de rêver. Hein. Il faut rien comprendre. Oui.
Windows 11, on va pas en courir parce qu'on connaît pas trop. Mais c'est vrai que c'est un peu la joke dans l'industrie du genre. Alors déjà, il y a encore plein de bugs, mais ils ont décidé de shipper parce que la date, c'est la date. Et ensuite, à part des carrés qui sont plus ronds, il y a une grosse interrogation sur la liste des fonctionnalités.
C'est ça.
Mais bon, c'est un numéro qui s'incrémente.
Ouais. On peut passer à la partie librairie. On a une grosse sortie, c'est la sortie de JUnit 5.8, où il y a eu beaucoup de travail de fait. Alors, on n'a pas tout listé, mais il y a quelques petites choses qui étaient assez intéressantes, notamment le fait que maintenant, vous pouvez redonner vos classes de test, et plus seulement vos méthodes. Donc, il y a la classe order API, et en fait, vous allez déclarer dans la configuration, si vous voulez, un ordonnancement par ordre de nom de classe, par ordre alphabétique, par nom d'affichage, par avec un at order, comme on pouvait déjà faire sur les méthodes ou en random. On peut aussi le faire d'ailleurs sur les classes qui sont les classes nested, avec la notation test class order. ExtendWith peut maintenant être utilisé pour enregistrer des extensions via des champs ou des paramètres de méthodes, donc soit le constructeur, mais ça peut être aussi les méthodes de test ou les méthodes de ce qu'on appelle les lifecycle, after all, etc. par exemple. Register Extension, on peut maintenant l'utiliser sur des champs privés, ce qui n'était pas le cas avant. On a des assertions qui vont devenir
un petit peu plus... Ça, c'est avant qu'il pète unsafe entièrement. Ouais,
alors, la première, c'est Assert Throws Exactly, qui, en fait, est une version plus stricte de Assert Throws et qui va permettre de s'assurer qu'on a vraiment l'instance de l'exception qu'on essaye de choper. Assert Does Not Throw, il supporte maintenant les suspending functions en Kotlin. On a Assert Instance Of qui va donner des meilleurs messages d'erreur. L'objectif, en fait, c'est de, à terme, c'est de virer ce Assert True Instance Of qu'on voyait des fois. Assert Null, ça j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça, le nombre de faux, ça t'arrive. Il comporte maintenant le type de l'objet. Donc, c'est-à-dire que si la méthode toString retourne un nul, eh ben, il va vous donner le type de l'objet et ça va éviter d'avoir expected nul, but was nul. Ah ouais, super. Merci. une des autres grosses modifications, c'est une annotation. En vrai,
c'était ouais. utile parce que là, ce qui va se passer, ça va être expected string, but was null. Ouais. C'est ouais. ça le, qui va retourner un peu. Bon, ça donne pas beaucoup de contexte. Donc, en vrai, la vraie solution, c'était d'avoir une ligne de description correcte dans ton assert nul. Pour que quand ça pète, ça dise, ah bah tiens, il y a un truc qui t'attendait pas à nu, alors qu'il est censé être chargé au démarrage. Hein.
Ouais,
en vrai, ça, c'est soit tu passes le type, soit tu fais l'effort de passer la bonne description.
C'est déjà, c'est un petit progrès, tu vois. Moi, je prends toutes les petites améliorations. Ouais,
c'est mon côté vieux ronchon, ça y est.
Ça y est.
L'autre gros sujet dans cette release, c'est que avec la notation tempdir, on peut maintenant créer plusieurs répertoires temporaires. C'est-à-dire qu'avant c'était par contexte. Alors le retour en mode par contexte peut toujours être fait. Hein, c'est juste faut le configurer. Et il y a d'autres améliorations parce que ça peut maintenant être utilisé sur un champ private. Et puis il va faire un reset aussi des permissions read and write et du répertoire root et tous les répertoires qui sont sous-jacents plutôt que d'échouer à les supprimer. Et puis un autre truc que je trouvais pas mal, c'était le Unique ID Tracking Listener qui va, en fait, ça va générer un fichier qui contient les identifiants de tous les tests exécutés. Et en fait, l'idée, c'est vous pouvez le prendre pour réexécuter ces tests, par exemple dans une image Graal VM, choses comme ça. Voilà.
Moi, je me posais une question là sur le premier point. Qui est, donc on peut ordonner l'exécution des classes, ok, super. Et puis il y a random. Et dans ma tête, j'avais le débat, est-ce que c'est un truc que t'as envie de mettre ou que t'as surtout pas envie de mettre, en fait. Donc t'as envie de le mettre parce que si t'as des trucs qui pètent, parce que les ordres sont différents, c'est qu'il y a un truc. Mais en même temps, quand ça pète une fois sur 42 et qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, c'est toujours la plaie. Donc est-ce que c'est l'ignorance et...
Ouais.
Et la bienvenue, ou est-ce que faut se faire un côté masochiste?
Moi, je suis un peu sceptique sur l'utilisation de order tout court, c'est-à-dire, j'étais déjà pas très très fan au niveau des méthodes et je pense pas avoir envie de m'en servir au niveau de mes classes. Je sais pas, pour moi, c'est un peu code smell, tu vois. Si t'en arrives à faire des trucs comme ça, c'est que t'as pas forcément bien découpé tes tests, que je sais pas, il y a des trucs qui vont pas.
En fait, t'as des ordres, quoi. Tu dis, voilà, je vais faire les trucs de base, et puis si ça pète, de toute façon, tout le reste, ça va péter.
Oui,
donc je vais gagner
ça
du
peut
temps.
Être ça, ouais. Ouais. Effectivement. Bon, à voir.
Yes.
Et donc on a parlé vite fait de lui, Stephen Colburn, effectivement, un petit avertissement pour les utilisateurs de JodaTime, c'est de ne pas mettre à jour la base de données des fuseaux horaires. Alors c'est super cocasse, je sais pas si les gars vous voulez en parler ou si je le fais, mais...
Bon, on peut. En fait, donc les mainteneurs de la base... Donc il y avait déjà eu pas mal d'histoires au niveau de la maintenance de la base de données des temps, et enfin des time zones, et... Là, dernièrement, donc le lead, je me rappelle plus comment il s'appelle, par contre, on l'a pas noté.
Vladimir.
Mais bon, il a décidé de simplifier là où c'était possible les time zones, les fuseaux horaires qui étaient les mêmes entre deux régions, deux pays. Si ça n'avait pas changé, s'il n'avait pas été différent depuis 1970. Voilà. Donc ça veut dire, dans son exemple, je crois qu'il prend dans l'article, il compare les time zones, donc les fuseaux horaires sur Oslo et Berlin, je crois, de mémoire. Et donc bon, bah, il dit, bah, celui-là, on va pouvoir les retirer, on va en garder qu'un, on gardera par exemple Berlin. Voilà. Donc Oslo, ça n'existera plus, ça sera un alias vers Berlin, etc. Mais alors ça veut dire, ça pose plein de soucis, parce qu'effectivement, bah, si on a des temps qui reviennent avant 70, bah, peut-être que ça va être faux. Avant, on avait le vrai temps, enfin la vraie time zone à un moment donné pour Oslo, avant 1970, on l'a perdu. Il y a des trucs un peu plus cocasses, par exemple, sur Jodatime lui-même, puisqu'il dit... bah nous on suit vraiment, il y a cette notion d'alias existe vraiment, une zone qui est un alias d'une autre, ça existe vraiment. Et donc bah il dit bah moi le test qui vérifie que bah la time zone Oslo c'est bien Oslo, bah elle va être fausse parce qu'il va dire que Oslo maintenant c'est Berlin. Voilà. Donc mais ça veut dire que derrière ceux qui implémentent des trucs un petit peu sioux sur les parties bas niveau des time zones bah les plus horaires ça va plus aller. Voilà, donc il prévient dessus, donc je sais pas, ils essayent de faire pression sur le mainteneur, mais ça a l'air d'être compliqué. Donc là, il y a déjà eu un changement là dans la dernière release qui a été faite, donc je sais plus combien ils vont en éliminer, il a donné le nombre, il y en a je sais plus combien qui veulent être éliminés. Il y en a déjà un tout petit paquet qui a été éliminé, qui a été fusionné. Alors c'est pas en Europe a priori, mais voilà, donc il dit bah faut se méfier, là, on n'arrive pas à convaincre le mainteneur que non, c'est une mauvaise idée de faire du ménage comme ça, qui en plus, bon, a priori a personne n'arrive à comprendre la vraie valeur du ménage, parce que bon, là, pour le coup, il y a pas, c'est pas quelque chose qui va améliorer, que ce soit en perf, en maintenance, etc. Il y a pas de vraie valeur ajoutée à faire ce ménage-là, si ce n'est à se créer des problèmes.
Dans GraalVM, au début, je sais pas s'ils ont amélioré ça, mais en fonction des langages que tu injectais dedans, ou des time zones que tu injectais dedans, ton image, ouais, elle faisait pas la même taille, hein. Et la mémoire, non plus. Ça se voyait beaucoup.
Ouais, à ce point-là.
Bon, enfin, ouais, là, dans les propositions, ouais, t'as quand même l'Islande qui se retrouve sur le fuseau horaire d'Abidjan. Donc. et Stéphane m'a fait. Enfin, ça m'a beaucoup fait rire son article parce qu'il mettait entre parenthèses, t'as des points bonus si tu sais me dire où, dans quel pays est Abidjan, quoi.
Non, mais il y a un autre truc, c'est qu'en Europe, bon, voilà, ça a été repoussé parce que, évidemment, comme d'habitude, ça a repoussé ce genre de truc. Mais à un moment, on a décidé qu'on voulait peut-être arrêter les changements de.
De DHT.
Les changements hiver été, là. Et puis, oui, comme personne n'est d'accord, on avait dit, bon, bah, chaque pays va décider ce qu'il veut. Déjà, ça sera un bordel innommable potentiel. Mais là, du coup, Oslo et Berlin, ils n'auront pas fait le même choix.
Voilà.
On parlait de l'Islande et d'Abidjan.
C'est ça. Donc, voilà.
Donc, bref.
Méfiance.
Bah, et du coup, donc, il faut pas mettre à jour. Donc, Yodatime n'a pas mis à jour. Et si vous utilisez donc, cette base de données, elle est hébergé par l'IANA ou un truc comme ça.
Oui, et, c'est ça.
Donc un institut du compte. Et du coup, il ne faut pas mettre à jour. Mais après, peu de gens embarquent directement cette base de données quand même dans la vraie vie.
Bah, l'operating system peut le faire, par exemple. Ça va être le problème, c'est que Unix, et même j'imagine les autres distros, hein, incorpore cette version-là et la met à jour. Donc tu vas en plus avoir potentiellement des incohérences entre ce que va te retourner ton operating system et ce que va te rapporter Java et la...
D'accord.
Donc c'est un peu le souci, ouais.
Bien, bien, bien.
De bons moments en perspective.
De toute façon, les DST et les time zones, c'est toujours l'enfer. Enfin, ça, c'est...
Et puis, côté librairie, bah, y a eu Spring.io, là, en début de mois de septembre. Et je vous ai mis plusieurs articles. Il y a des articles récapitulatifs jour 1, jour 2. Il y a aussi Josh Long qui a fait une petite récap en vidéo. Et après, je vous ai mis les talks vers les liens vers les trois talks qui pour moi sont les plus importants, je dirais. Le premier, c'est le State of Spring 2021. Donc, c'est ce qu'on appelle le mot du patron, hein, officiellement. comme toujours, Jürgen est revenu un petit peu sur l'état des lieux. Il fait un état des lieux, en fait, de l'utilisation de Spring, et puis il donne les grandes lignes de ce qui va être, de ce qui est prévu. Donc, quelques chiffres. Il y a 61% des sondés qui utilisent Spring Boot. Il y en a 94% d'entre eux, c'est pour faire des microservices. 35% sont sur des architectures réactives. Et 61% voudraient passer sur du natif d'ici 2 ans. Voilà. Ensuite, il est revenu sur alors un peu donc les grosses annonces, c'est qu'on va avoir une nouvelle baseline pour Spring Framework 6, donc qui sera Java 17 et qui sera également Jakarta 9. Donc ça c'est dès la 6.0 M1 de Spring qui arrivera le trimestre prochain si tout va bien. Le deuxième gros sujet, c'est Spring Native qui arrive dans Spring Framework. Pour le moment, c'est le début, hein, mais déjà là, il y a eu un gros travail de compilation sur la compilation AOT, ahead of time, qui va bénéficier également au déploiement JVM. Spring Boot Starter va maintenant pouvoir gérer des applications natives, et puis Spring Boot va proposer des plugins de build et de la configuration native dès la 3.0. On a parlé aussi un petit peu du support de RSocket et de GraphQL. Et puis l'autre gros sujet, c'est Spring Observability, qui lui aussi passe dans Spring Framework, puisque c'était un projet à part jusqu'à il y a peu. Donc l'idée, c'est de fournir une API unifiée pour les métriques et le tracing. Donc elle est compatible avec Micrometer, Wavefront, Zipkin, Brave, OpenTelemetry. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, vous le configurez une fois et vous pouvez l'utiliser avec tout. Et donc l'idée en le ramenant dans Spring Framework, c'est qu'on va avoir une intégration qui soit consistante avec tout le portfolio. On aura de l'autoconfiguration dans Spring Boot 3 et les abstractions core dans Spring Framework 6.0. Et donc je vous ai mis ensuite deux autres talks en lien. Donc le premier, c'est le talk Spring Native de Sébastien Deleuze, où là, si vous voulez vraiment avoir plus d'infos sur tout le détail de ce qui a été fait, c'est tout est dedans. Et puis le deuxième talk de Jürgen Höller, c'est le justement où il revient plus en détail sur tout ce que comporte toutes les évolutions qu'on va avoir de Spring Framework 5.3 à 6.0, puisque 5.3 va continuer à vivre, hein, donc il y aura encore quelques évolutions quand même. Voilà. Et puis la suite des annonces Spring.io, c'était plus côté infrastructure finalement, donc c'était le lancement de la Tanzu Application Platform. Donc ça, en fait, c'est une plateforme pour faire du Kubernetes. Hein. Donc c'est livré avec toute la chaîne d'outils. Donc c'est un peu opinionated. Hein. Il y a des, c'est-à-dire que c'est livré avec toutes les briques, que ça soit pour le build, pour le registry, pour les choses comme ça. Mais c'est configurable. Si les équipes veulent modifier certaines briques, il y a aucun problème, elles peuvent le faire. C'est compatible AKS, EKS, GKS et TKG. Alors TKG, c'est Tanzu Kubernetes Grid. Et alors il y a un truc moi que je trouve hyper sympa dedans, c'est l'application accelerator. Et en fait, ça c'est complètement inspiré par le Spring Initializer. Donc ça permet de générer des templates pour des applications. Donc tu dis je veux faire une application qui utilise Spring Cloud par exemple. Ça va générer les templates et donc en fait ça permet de Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. On a eu un exemple en interne avec qui est pas encore publié, je pense, mais notamment avec la gateway, avec la Spring Cloud Gateway pour Kubernetes. Et il y a énormément de paramètres à déclarer. Donc là, ça permet tout de suite, tu visualises, tu dis tes options, tu donnes ton nom, machin, etc. Tu visualises tes fichiers de configuration, tu vois si ça correspond à ce que tu veux faire, paf, tu génères ton application. Et puis l'autre annonce qu'il y a eu cette semaine, c'était Tanzu Community Edition. Donc ça, en fait, c'est la version open source de Tanzu qui est offerte à la communauté. Ou dans cet article justement, il y a toutes les briques qui sont proposées, il y a un schéma assez clair où elles sont exposées. Donc c'est peut-être un peu plus facile à comprendre.
On fait des nouveautés. Voilà. C'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on avait fait effectivement le mois dernier, parce qu'on était passé vraiment très vite dessus. Ça venait juste de sortir, c'était tout chaud dans le four. Donc ouais, merci pour tous ces détails. Tanzu, ouais, j'arrive pas à me faire, je sais pas. Faudra que je regarde.
C'est l'idée en fait, c'est de faciliter vraiment la vie des développeurs.
Ouais, c'est d'avoir toute la plateforme complète.
Ouais, c'est et puis d'avoir quelque chose qui soit commun pour les ops et les devs, où les deux vont trouver leur bonheur et pour faciliter leur vie ensemble et faciliter la vie avec Kubernetes, c'est pas du luxe, croyez-moi.
Oh, tout de suite.
Bah si, moi je suis la personne qui fait que ça te facilite la vie derrière. Alors crois-moi, la mienne, elle en chie, tu vois.
Mais non, le YAML c'est bien.
Oui, le YAML c'est la vie. Et puis côté cloud, ah, un petit truc rigolo côté cloud, je sais pas, Arnaud.
Rigolo, je sais pas. Mais effectivement, Azure a été donc c'était au mois de septembre, voilà, fin septembre je crois, a fait part d'une faille de sécurité. Tu disais?
Mi-septembre.
Mi-septembre. A fait part d'une faille de sécurité qui concernait un composant qui est installé sur la plupart de leur VM. C'est l'OMI, donc c'est un petit agent qui permet de monitorer l'infrastructure, les VM, etc. Donc on trouve ça chez beaucoup de providers. Et donc bon bah manque de peau, souci de sécurité dessus qui permet. Alors déjà ça s'exécute en route comme beaucoup de choses de monitoring puisqu'il faut pouvoir regarder ce qui se passe dans la VM, etc. Donc généralement, ces trucs sont souvent installés en route. Et donc, souci de sécu dessus, installé sur toutes les VM Azure qui tournent. Et donc voilà.
Parce que tu dis leur VM, mais en fait, en vrai, ils avaient, quand tu disais, moi, j'installe mon truc, en fait, ça allait injecter ce composant.
Ça injectait dedans ce composant de monitoring, ouais. Ouais, c'est ça.
Enfin, sans que tu le saches super explicitement. C'était écrit dans les terms and conditions.
Oui, dans le tout petit truc étoile qu'il y a en bas des pages, etc.
Ça dépendait des services que tu utilisais, je crois.
Oui, je crois que c'est ça. Ça dépend des services qui sont utilisés. Mais voilà, donc un gros souci à ce niveau-là. Ils ont fait le fixe, mais le problème, bah voilà, c'est qu'il faut que ça soit déployé partout. Bref. Donc si vous avez des choses qui tournent sur Azure, dans tous les cas, et que vous n'êtes pas au courant de cette faille, regardez tout de suite ce qu'il en est, l'article qui est expliqué et tout ça, parce qu'effectivement, ça peut être un gros souci de sécurité sur la plateforme. Donc, mettez à jour.
Ce qui a surtout énervé les gens, là, c'est que c'était installé un peu trop discrètement et que
complètement.
Le cycle de vie n'était pas... Alors, en théorie, si ta VM, elle utilise, par exemple, un truc comme Azure Log, etc., qui, lui, a besoin de ça et qui l'installe, normalement, ils sont censés gérer le truc. Après, ils disent, bon, mais quand même, regardez vous-même. Et puis ensuite, il y a peut-être des moments où on a enlevé le service et que c'est pas enlevé, et voilà, dans ce genre de cas à la marge.
Partie web, on a un petit article, enfin, c'est pas vraiment un article, c'est un petit dessin d'ailleurs, super sympa de Julia Evans qui, toujours avec son talent habituel, nous explique CORS, qui est une problématique bien connue de tous les gens qui ont fait du développement web.
Donc, pas le groupe de musique. Hein,
Donc elle explique notamment comment va se comporter le navigateur quand il voit qu'on essaye d'accéder à une URL qui est différente de celle du domaine de la page web qu'on a chargée, et il se demande s'il a le droit de charger cette page ou pas. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un pre-flight request. Alors ça, c'est dans le cas des méthodes post, hein. Les méthodes get, elles passent comme ça, mais dans les méthodes post, il va faire une pre-flight request avec la méthode HTTP options, et puis comme ça, il saura si ça fait partie des requêtes qui sont permises ou pas, et ensuite, il envoie la requête.
Et j'ai trouvé, parce que moi, j'y connais, enfin, j'ai lu et oublié maintes fois, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le serveur cible, en fait, qui dit s'il est OK que le serveur source qui a donné la page qui va amener le poste a le droit de le faire. Donc ça a sûrement du sens, mais il faudrait que je réfléchisse.
côté data, la sortie de Kafka
3. Attends, faut quand même dire, sur l'image c'est mignon, mais elle a mis quand même le navigateur Firefox qui souffre un peu en termes de part de marché, donc c'est peut-être qu'un jour ça sera un peu vintage son dessin là.
Il souffre à tort, il est très bien ce navigateur, je vois pas où est le problème. donc ouais, côté data, Kafka 3.0, Manu, on va te laisser la main là, parce que...
Ouais, donc Kafka 3.0, quelque part, par rapport aux autres versions de Kafka, notamment pour une majeure, il y a peu de fonctionnalités nouvelles, à part un gros truc qui pour l'instant est encore en fignolage et du coup qui est désactivé par défaut, c'est-à-dire la suppression de Zookeeper en tant que coordinateur d'un certain nombre de métadonnées. Et donc, pour remplacer ça, ils ont pas pris Raft parce que ça serait trop facile. Donc, ils ont inventé leur propre variation qui s'appelle Kraft, Kafka Raft, avec leur propre tuning. Alors, je sais pas si c'est, elle a été analysée par des chercheurs ou pas en termes de qualité. Et donc ça reste optionnel. Du coup, par défaut, quand vous utilisez Kafka 3, il y a encore Zookeeper et les Kafka qui parlent aux Zookeeper. Ils ont déjà fait beaucoup de travail de fond depuis pas mal d'années, même en fait maintenant, où les clients n'ont plus de connexion directe avec Zookeeper, je pense. Et en fait, c'est vraiment les serveurs qui parlent encore à Zookeeper pour, voilà, petit à petit pouvoir éliminer ça. Jusque avant la 3, il y avait des choses qui fonctionnaient pas, notamment au niveau des, je crois, des transactions qui n'étaient pas encore supportées dans la version Kraft par rapport à la version Zookeeper et un certain nombre d'autres fonctionnalités comme ça. Donc là, il y a eu un gros travail de, qui est à peu près au niveau là-dessus. Donc, si vous pouvez expérimenter, j'essaierai de pas oublier, il y a un blog de Gunnar Morling qui avait expérimenté, là-dessus, là, qui était intéressant aussi. Voilà. Et sinon, au niveau Kafka 3, donc en dehors de ce gros, cette grosse évolution majeure, ils ne supportent plus Java 8. Il faut faire Java 11 ou plus. Ils ne supportent plus Scala 2.12 dans Kafka. Alors, je sais pas si c'est dans Kafka, peut-être dans les listeners ou les choses comme ça, c'est une bonne question, ou si c'est pour leur usage de Kafka à eux. En tout cas, ils supportent plus Kafka 2.12. Et puis, bon, après, il y a des choses dont j'ai parlé autour de Kraft, des choses assez internes. Il y a d'autres choses un petit peu intéressantes. Au niveau de Kafka Connect, il y a une API pour redémarrer les connecteurs et les tâches. Donc ça, c'est peut-être une fonctionnalité qui vous manquait notamment et qui peut être intéressant d'aller explorer. Voilà, il y en a d'autres qui sont un peu plus bas niveau. Et au niveau Kafka Streams, il y a des améliorations aussi. Donc je n'ai pas été regarder dans le détail, mais est-ce qu'il y en a une qui ressort un peu? Il y a pas mal de dépréciation par rapport à des vieux trucs qu'ils avaient gardés au niveau du genre version 0, du schéma, ce genre de choses qui s'en vont. Donc, si vous avez pas gardé votre hygiène d'usage de Kafka, c'est peut-être le moment d'aller faire un petit passage là-dessus. Mirror Maker 1 est déprécié. Donc, Mirror Maker, maintenant, la plupart sont focalisés sur la version 2, mais voilà, la 1 est dépréciée. Voilà, voilà, et bon, plein d'autres détails. Si vous utilisez Kafka, allez zoomer, mais il y a pas mal de changements autour de ça.
Bon, et alors après, alors je l'ai mis dans la partie architecture parce que je ne savais pas où le mettre.
Mais tu veux pas dérouiller Travis CI avec leur...
Ah oui, c'est vrai, pardon, j'allais sauter Travis CI en outillage. Bon, il y a déjà
la voilà, sécurité.
Il y a un petit truc rigolo, c'est que Travis a fait un petit partage de vos secrets dans toutes les PR de vos repos par accident. Ouais. Voilà.
Les PR envoyées par quelqu'un d'autre sur votre
repo. C'est ça. Les builds des PR pouvaient exposer les secrets. Parce que ce qui se passe, c'est que bah, c'est comme fait GitHub et tous les autres, mais quand vous faites des jobs automatiques d'intégration, vous avez besoin de passer des secrets, donc soit vous les déclarez dans l'interface, soit vous les déclarez, a priori, Travis CI, il y a un système de configuration par fichier aussi que vous pouvez utiliser. Et donc, c'est injecté au niveau du build pour utiliser, pour accéder à des ressources externes et autres. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe en théorie, c'est que normalement, quand vous faites des PR sur des repos et que vous n'êtes pas membre du repo, vous n'avez pas accès à ces secrets. Donc généralement, soit les builds plantent, soit les builds ne sont pas triggerés, ça dépend des... Je sais pas, je travisse ce qu'ils font. Voilà. Mais vous n'avez donc pas accès, si moi je commit dans un projet que je suis pas committeur, je n'aurai pas accès dans mon build au secret. Et là, pendant une semaine, à peu près une semaine, il y a eu un bug. Et donc, toutes les PR créées pendant ce moment-là, se sont retrouvées à pouvoir accéder au secret du repository, enfin du projet en question. Donc, on pouvait très bien faire des échos, println, etc., des secrets du projet XYZ. Donc voilà, ça a été le problème de base. C'est bon, déjà c'est qu'une fois de plus Travis, bon après c'est un concurrent donc je vais pas non plus être méchant, mais effectivement ils ont encore un peu mal géré la partie sécurité.
C'est vrai que c'est là, pas le thème depuis le début, t'es gentil là, depuis le début.
Tout. mais l'annonce de la sécurité, de la vulnérabilité a été encore faite un peu, elle est passée sous le tapis discrètement. Oh, oui, un petit souci machin, etc. Ça a été bon, une fois de plus pas très pas honnête, mais vraiment ouais, un peu ils ont diminué le risque. En gros, il faut quand même changer vos secrets hein, si vous en avez chez Travis, vaut mieux même s'il n'y a pas eu de PR sur votre truc ni rien, dans le doute, vaut mieux faire une rotation des secrets. Mais voilà, donc ils se sont fait un petit bad buzz à cause de ça, parce que mauvaise communication sur l'impact de la sécurité, et sur, voilà, ils ont voulu le passer un peu sous silence, et puis bon, bien sûr, le bug de sécurité par lui-même, mais bon, ça arrive même au meilleur d'avoir des problèmes de sécu, ça c'est pas le problème, mais effectivement, faut savoir l'annoncer, puis prendre les mesures qui vont bien, voilà.
Tu proposes quoi comme rotation, un petit rot 13? Pour inverser tout.
Change tout. Mais ouais, non, après, c'est ouais. Super pénible.
Non, c'est surtout clair que... sur la communication où, c'était ouais. Pas cool. Ouais. De toute façon, tout le monde fait des rotations de secrets, pas besoin de le dire.
C'est ça.
Ouais, ça va mieux en le disant. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et puis, faut se douter. Après, je sais pas, je connais pas bien Travis CI, mais les secrets, ça dépend s'ils sont au niveau du repo, s'ils sont au niveau de l'organisation, etc. Enfin. Ça peut être super pénible à faire en fonction de comment tu gères tes projets et tes machins, donc c'est pour ça que les gens font pas non plus des rotations de secrets tous les 5 minutes.
Soit t'as un outil automatisé, soit...
Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, tu vois, ça dépend des projets. Donc après, il y a beaucoup de projets open source, surtout qui utilisent Travis CI. Mais bon, voilà, ça les a mis en risque pendant une semaine et bon. Voilà. Pas cool.
Voilà, et donc on en arrive à un autre moment pas cool pour ceux qui ont dû le gérer. Vous l'avez probablement remarqué, Facebook est tombé pendant 6 heures, et donc évidemment pas que Facebook, hein, WhatsApp et Instagram aussi. Arnaud, tu veux revenir dessus
Moi je peux revenir, j'ai reçu un coup de fil de ma mère qui me disait « Oh là là, là là, tout est cassé, j'ai plus accès à Facebook ». Ah bon, okay, parce que bon, moi effectivement j'utilise plus Facebook depuis un petit bout de temps, et donc bon bah effectivement c'était lundi, donc en fin de journée pour nous, je crois c'était lundi matin côté US, on voit s'exciter sur Twitter essentiellement, Facebook est tombé, il y a plus rien de Facebook qui tourne et de son écosystème, vraiment le gros outage. Et donc ça a duré donc 6 heures environ, le downtime. Ils ont un peu galéré pour remettre tout ça en service. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au début, effectivement, on s'en est donc rendu compte juste que c'était pas dispo et puis que ça commençait un peu à casser partout. Moi, je sais que je l'ai vu passer par Zendesk, qui est l'application de support que j'utilise chez CloudBees, qui nous a informé, les connecteurs Facebook et machin sont tous cassés. Je dis, tiens, bon, c'est bizarre. Moi, je l'ai su comme ça, en fait, le premier truc. Et après, bon, ma mère qui m'appelle, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, lundi...
Moi, j'étais en train de WhatsApper avec... dans un meeting à parler à quelqu'un d'autre, tu sais, en transversal, et puis d'un coup le message il est en attente, comme ça.
Il passe plus, ouais,
il passe là. Alors j'ai rebooté mon téléphone, je suis passé à la 4G, rien, merde.
Bah oui, parce que en plus donc les pages de statut, je crois, de, alors je sais pas s'il y avait que Facebook, mais il y a des pages de statut qui même étaient impactées, donc t'avais même pas la page de statut de Facebook qui disait que c'était cassé, enfin t'avais plus rien de dispo. Ce qui se passe, c'est que donc lundi matin, ils prévoient de faire une mise à jour sur leur infrastructure. Donc faut savoir que Facebook, bon bah ils ont une infrastructure à eux, hein, ils ont une série de data centers sur toute la planète, avec un backbone réseau, avec de la fibre qui relie tout ça ensemble et puis qui se connecte à Internet. Et donc ils vont faire une maintenance comme ils font classiquement sur une partie du réseau, etc. Ils prévoient ça, et puis quand ils font ça, bon, ils ont tout un système pour dire tiens, il y a une partie des régions qui vont être down, et bon bah le trafic va automatiquement se scaler sur les autres régions, etc. Voilà, truc classique. Manque de peau, a priori, la personne, on imagine que c'est une personne, a lancé la commande pour dire, bon, on fait une maintenance sur telle partie du truc. En fait, elle a dit, non, on fait une maintenance sur toute l'infrastructure Facebook. Bon. Les systèmes étant ce qu'ils sont, ils prennent en question que quoi, toute l'infrastructure va être down. Donc, ils commencent à avertir que, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Facebook, du tout. Alors, ils ont censé avoir un contrôle, hein. Ils ont des systèmes pour vérifier les commandes qui sont passées, vérifier que justement des trucs qui sont des RM-RF sur l'ensemble de l'infrastructure, ça passe pas. Manque de peau, il y a un bug. Ça catche pas la commande en question. toute l'infrastructure se met en mode, bah, on n'est plus là, on va être en maintenance, donc bah, on reprend plus les requêtes, etc. Donc c'est là où tout le monde devient expert sur Twitter sur donc les avertissements BGP. Personnellement, je connaissais pas avant lundi, hein, je l'avoue honnêtement. Hein, donc le
protocole. Les avertissements, c'est les advertisements, c'est les publications BGP.
Publications, c'est voilà.
Tu veux expliquer vas-y. BGP ou j'essaye?
Non, tu, ah bah, si tu veux le faire, si tu veux le faire, vas-y, hein. Okay. Moi, j'ai appris lundi, hein. J'ai regardé un peu comment ça marchait lundi, donc vas-y, si tu veux le faire.
Vous connaissez DNS, c'est un nom, on associe une IP. Okay. Donc, BGP, c'est encore un niveau au-dessus, c'est, mais quand on me dit d'aller à cette IP, je vais où? Et donc, il y a des gens qui ont des réseaux, donc historiquement, vos fournisseurs, là, Orange Free, etc. Ils sont des, ce qu'on appelle, ils ont des, ce qu'on appelle des autonomous systems. C'est des systèmes qui ont, voilà, leur propre réseau. Et donc, Facebook, qui se trouve à racheter, quelqu'un, enfin, et aussi un système autonome au niveau réseau. Et ils ont des IP qui gèrent. Et du coup, BGP, c'est le protocole de communication entre tous ces routeurs fondamentaux, qui sont capables de dire, bah, quand je vois l'IP 1.2.3.4, je le redirige vers ce routeur-là. Qui, parce que elle lui appartient, ou je lui redirige vers celui-là qui lui sera un genre de choix. Et donc, c'est littéralement, telle IP ou telle plage d'IP va vers tel truc. Et donc, ce qu'a fait Facebook, c'est au lieu d'éteindre un morceau, un data center de leur plage d'IP en disant, bah, c'est plus accessible. En fait, ils ont dit, bah, toutes les IP Facebook sont plus accessibles. Et du coup, bah, évidemment, ça marche moins bien. et du coup, ce qui se passe de BGP, c'est pas la première fois qu'on parle d'erreurs autour de BGP, parce que c'est un protocole qui est dans la confiance, etc. Donc, on peut aussi faire des erreurs sur les réseaux des autres. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, Facebook dit, il y a plus, ces IP-là, elles vont plus à tel endroit. Donc, ça, c'est publié. Donc, c'est pour ça que c'est advertisement. Ces règles-là sont publiées. Et elles sont écoutées par tout ce réseau en relais de ces routeurs fondamentaux. Et ils disent, OK, bah, ces IP n'existent plus. Je mets à jour ma table et hop, je passe au voisin. Et donc, en 5 minutes, en gros, quand on voulait essayer de d'accéder à une IP, non seulement le DNS, mais surtout à une IP Facebook, ben, ça allait vers rien. Ça marchait plus très bien. Voilà, c'est ça, BGP.
Ça. Et donc c'est la base, c'est comme ça que ça s'est propagé donc très vite, hein, honnêtement. Donc a priori les ingénieurs Facebook ont compris très rapidement, hein, l'erreur qu'ils avaient faite et en quoi ça allait être cinglant. Donc en quelques minutes, oui c'est ça. Ouais, c'est...
Il y en a un qui a fait chérie, ça va couper à votre avis ou pas?
Il y en a qui devaient pas être bien. Donc bon bah voilà, en quelques minutes propagation sur tout l'internet que bah Facebook n'existe plus. Donc les derrière les DNS bien sûr se mettent à jour. Bah il y avait plus de réponse sur les noms de domaine Facebook et Co. Et puisqu'il y avait plus d'IP pour les servir, donc il y avait plus rien derrière.
Ouais alors en fait, il y a l'article de Facebook qui est un peu plus subtil que ça, parce que visiblement ils ont des data centers périphériques qui eux étaient pas forcément affectés, et les data centers de cœur qui ont les serveurs, etc., eux étaient affectés. Donc, les DNS sont sur le périphérique, mais le DNS, quand il voit que l'IP vers qui il pointe n'existe pas au sens BGP, il dit, bah, c'est un problème réseau, donc j'arrête de répondre aussi. Donc, en fait, tout, il y a eu un effet cascade.
C'est ça, sur toute l'infra. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah ils veulent réparer très rapidement. Manque de peau. Bah pour réparer très rapidement, bah faut accéder aux machines, faut accéder aux routeurs pour leur dire mais non c'était une erreur, je me suis trompé. On est bien là, voilà, faut accéder à un réseau. Manque de peau. Bah quand tous les éléments se parlent plus entre eux, puisque il y a plus les tables de routage, ces fameuses tables de routage dynamiques faites par BGP qui permettent de dire bah c'est pas par là. Bah, on peut plus accéder aux machines, sachant qu'en plus, bon, bah, beaucoup de gens sont en remote en ce moment, donc, bon, bah, les gens sont même pas physiquement dans les data centers, etc. Donc, catastrophe, ils peuvent plus accéder à leur infrastructure, ils ont plus les DNS, même pour leurs outils, donc ils ont plein d'outils en interne, bah, qui sont complètement cassés, parce qu'ils n'avaient pas prévu le fait que, bah, le Facebook.com et compagnie, bah, c'était possible que ça ne marche pas. Donc, ils ont des outils en interne, bah, ils peuvent même pas les utiliser parce qu'il n'y a plus rien. Plus qu'à envoyer des gens sur place, dans les data centers, donc il y en a quand même un paquet, pour essayer de redémarrer les machines principales, les routeurs principaux, etc. Bah, sauf que ces trucs-là, bah, ils sont, voilà, les reconfigurés. Sauf qu'ils sont prévus, bah, pour être super sécurisés. Facebook, on sait bien qu'ils font très attention à nos données, etc. Donc, ils sont super sécurisés. Super sécurisés physiquement pour...
Pardon, je me suis étouffée.
Voilà, donc rentrer physiquement dans les locaux a priori était une première galère parce que je sais pas ce qu'il y avait comme niveau de sécurité, mais c'est pas n'importe qui peut rentrer n'importe comment, etc.
Déjà le système qui gérait les badges, il était.
A priori, on a entendu ça. J'ai pas vu de vérification sur ça, mais effectivement, c'était un bruit de couloir qu'on a vu sur Twitter ou autre que ils pouvaient même pas rentrer parce que les systèmes de badges et tout, ils étaient cassés, ça marchait plus. Mais effectivement, j'ai pas vu de truc officiel là-dessus. Donc physiquement, difficile de rentrer. Et puis après, quand on est devant la machine, pareil, c'est a priori compliqué d'accéder au système parce que il y a 36 millions de sécurité pour pas y accéder, pour pas faire justement ce genre de manipulation sur les routeurs si critiques, etc. Donc fallait trouver des personnes qui sachent le faire ou qui sachent expliquer pour le faire, etc. Bref, ils ont mis un temps fou à pouvoir reconfigurer toute l'infrastructure pour que ça redémarre. Ça a duré 6 heures. Ça a eu plein de side effects. On l'a vu côté Cloudflare, ils ont fait un très très bon article pour expliquer leur point de vue à eux, puisque eux, en tant que provider sur la partie cache, la partie DNS, etc. Ils ont vu passer l'outage. Ils ont vu passer le nombre de requêtes qui se demandaient où était Facebook. Et donc le problème là-dessus, c'est que ça a plein d'effets secondaires, comme le fait justement, généralement, il n'y a pas de cache sur les miss, enfin sur les éléments manquants. Donc, quand on demandait,
c'est un peu une erreur de débutant, cela dit. J'attendais mieux de Cloudflare, mais bon.
Oui, mais bon, je peux peut-être le comprendre, je ne sais pas. Mais voilà, donc pas de cache sur les miss. Donc obligatoirement, tout le monde se demandait, Facebook, il est où? Donc tout le monde recommençait à faire des requêtes, tous les systèmes, tout le monde. Donc ça a complètement surchargé l'infrastructure d'un Cloudflare, etc. Alors eux, ils ont fait du scale-up, mais bon, a priori, c'est passé, mais ils ont quand même vu un petit bump dans leur temps de réponse, parce que ça commençait à chauffer, les requêtes. Twitter, moi j'ai vu Twitter, j'étais sur Twitter, donc à ce moment-là, pour essayer de me renseigner, les threads se chargeaient plus ni rien parce que certainement justement il y avait tellement de gens qui arrivaient en même temps sur Twitter, plus les effets de DNS qui étaient ralentis, de résolution de DNS qui étaient ralentis, tout ça, Twitter était à la ramasse. Donc beaucoup de gros soucis, ça a duré plus de 6 heures, ils ont expliqué donc ça sur un blog post pour expliquer l'enchaînement, mais effectivement bon, ça a été bien compliqué et les ingénieurs qui étaient derrière, franchement chapeau parce que ils ont dû vivre leurs heures les plus compliquées de leur vie là. Ça a dû être assez stressant. Voilà. Et il y a Julia Evans.
Pas trouvé, c'est que on disait qu'ils avaient les scie sauteuses pour aller rentrer dans les baies pour aller pouvoir brancher un truc, un clavier et aller mettre à jour les trucs.
Moi j'avais mis la photo là sur notre Slack interne, ça m'a fait penser à Mission Impossible là, quand il est sur les ordinateurs penchés là, qui doit pas toucher le sol machin. Bon, moi j'avais la même idée en tête, des mecs en train d'essayer de rentrer dedans sans... bon voilà, donc ils ont bien galéré et tout d'un coup voilà, c'est devenu donc tout le monde est devenu expert BGP, tout ça, c'était assez rigolo à suivre sur la toile.
Cela dit, une fois que tu as remis tes règles BGP, d'ailleurs, ils auraient pu demander à des... Je sais pas s'ils ont pensé ou si ça se fait, mais techniquement, comme BGP, c'est hyper ouvert, ils auraient pu appeler,
quelqu'un d'autre pour les
diffuser. Google ou Orange. Orange, tu veux pas publier ces règles-là, c'est les nôtres. On s'est chié dessus, au moins ça nous permettra de repartir et d'avoir accès à nos data centers. Ouais. Donc non, ils l'ont fait à la main. Mais après, derrière, ce qui est super intéressant, c'est que vous imaginez bien que tous ces systèmes, ils avaient plus de... ils avaient une IP, mais ils pouvaient plus parler à plus personne. Et donc, quand vous avez des systèmes distribués qui tout d'un coup reviennent tous ensemble, déjà, ils ont parlé de la surcharge électrique d'un coup. Donc,
le redémarrage lui-même était un problème, ouais.
Mais après, ils ont des procédures parce qu'ils apprennent à éteindre et redémarrer les data centers. Mais on imagine bien que voilà, tous ces systèmes distribués, on les redémarre pas comme ça et ça marche direct. Ça, ça devait être des procédures un peu intéressantes.
Ouais. Ça a marché. Pour le coup, ils sont contents parce que cette procédure de restauration a fonctionné. Voilà. Mais ouais, ils expliquent que, ils s'inquiètent. Moi, j'aurais pas pensé, mais effectivement, rien que l'aspect électrique de la chose, le fait de redémarrer tous les systèmes, ça charge beaucoup puisqu'il y a les montées en charge des caches, etc. S'ils laissaient tout démarrer d'un coup, instantanément, il y a plus l'électricité saute, il y a plus assez de courant pour tout. Donc c'est assez dingue effectivement de voir les impacts de la panne et de ce qu'il faut penser, anticiper, etc. Donc voilà. Bon, après tout le monde n'a pas son propre backbone et son infrastructure, ses data centers, etc. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment ça marche, comment ça tombe.
Je pense que ça va être intéressant leur post-mortem interne parce que Bah, est-ce qu'on externalise, par exemple, le DNS plus, ou est-ce que, en fait, c'est un cas assez rare et on accepte? Là, il parlait des difficultés à atteindre les serveurs, mais est-ce que c'est OK quand même? Parce que, bon, on va essayer de pas faire cette erreur tous les jours.
Avoir des réseaux alternatifs, etc., qui ont été évoqués, tout ça. Enfin, a priori.
C'est pareil, le status point, la status page, on a typiquement, on utilise un système externe pour ça. Donc ça, j'imagine, c'est ce qu'ils ont fait. Mais, sauf que le DNS qui pointait vers le système externe, c'était eux. Donc, ça, c'est tombé.
C'est ça. Comme quoi, on tient tous à un DNS, mais voilà. Là, ils l'ont payé un peu cher, là, pour le coup. Et donc les actions, je sais plus. Il est tout pauvre, Mark Zuckerberg.
Oh là là, je
suis plus 5%.
Ouais, c'est ça. Je suis tellement triste pour lui.
C'est ça. Je me doutais, tu vois.
Moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est qu'il mette autant d'énergie à, par exemple, je sais pas, se préoccuper du fait qu'Instagram pousse les ados à la dépression, voire au suicide.
Oula, pardon. T'en demande beaucoup. Quoi qu'il a fait un truc, justement, il est passé devant le congrès américain, mais bon, ça sera un autre sujet pour la partie loi et société, où justement, c'est ce qu'il a, quand on l'a questionné sur le problème d'outage, il a sorti, bon, va falloir que on protège les enfants. Voilà. Il a essayé un peu d'entuber tout le monde.
Voilà. Comme d'hab. Et cette fois, sur l'aspect sécurité, c'est Twitch qui a eu un gros problème, puisqu'il y a une fuite massive de données. Alors, quand on dit fuite massive, là, on parle de l'intégralité du source code, déjà. Ça part très, 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 très mal. Mais pas que. Pas que, parce que il y a aussi eu les revenus sur 3 ans de plus de 10 000 streamers et streameuses qui ont été publiés sur le net. Il y a certains codes d'accès à AWS, hein, puisque tout est déployé chez AWS.
Ouais, des secrets,
plus, maintenant, ça appartient à Amazon, donc voilà. Et puis, le petit bonus, c'est que c'est le leak était intitulé Part 1, donc il pourrait y avoir une Part 2 très bientôt, et on pourrait avoir d'autres infos. Alors, comment est-ce que ça a été rendu possible? Officiellement, c'est suite à une erreur dans un changement de config. Bon, officieusement, c'est plus probablement... officieusement, c'est plus probablement un employé ou un ex-employé, parce qu'apparemment, il y a pas mal d'ex-employés qui disaient qu'ils avaient toujours accès au code source longtemps après être partis, tous les outils internes, etc. Donc, c'est dans ces conditions-là, c'est pas très, très dur si t'es parti pas content de te venger. Et pourquoi? Alors, donc comme ça a été évidemment publié sur 4chan, c'était accompagné d'un message qui n'était pas forcément hyper clair, qui dénonçait un cloaque toxique dégoûtant. Donc, on a supposé que ça faisait référence au problème de harcèlement et de reste docile qui vit certains streamers et streameuses en fonction, en raison de leur origine ethnique, de leur genre, de leur orientation sexuelle, etc. Ça, c'est un très, 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 très gros problème de Twitch depuis longtemps. Et pour lequel ils ont pas fait grand chose. Là, ils ont un peu mis en place, ils ont fait un peu plus de travail sur les messageries privées, je crois, mais bon, ils sont pas énervés sur le sujet. Et il y avait aussi dans le même message une espèce de revendication à une concurrence plus saine dans le secteur du streaming du jeu vidéo, puisque aujourd'hui il est complètement dominé par Twitch, malgré les tentatives de YouTube de rentrer dans la partie. Voilà, donc ça va être à suivre.
Ouais.
Moi, il y a deux trucs que je trouve intéressants. Le premier, c'est qui sait ce que c'est un cloaque?
Moi, mais parce que j'ai lu beaucoup de classiques français.
C'est ça.
Donc, juste, il y a trois définitions, je voulais dire. C'est la région postérieure du tube digestif des vertébrés où s'ouvre l'intestin postérieur, les voies urinaires et génitales, voilà, notamment les os. Donc ça, c'est fait. L'acceptacle des os sales, des os ménagères, masse d'eau croupie, etc. Et au sens littéraire, c'est un foyer de corruption morale et de lieux immondes. Je sais pas quelle définition a été utilisée dans le 4chan. La deuxième, c'est que du coup, il y a l'argent reçu par ces streamers qui a été publié, et du coup, des gens qui se posaient des questions sur ces montants. Et il y a eu des streamers qui expliquaient, mais attendez, ça n'arrive pas. Enfin, je suis pas en auto-indep et ça m'arrive pas dessus. En fait, j'ai une société, donc l'argent, il est donné à cette société qui fait plein de choses, qui embauche des gens pour Parce qu'en fait, quand on fait son petit stream, on n'est pas tout seul derrière et hop, tout l'argent tombe. Il y a en fait grosse machine, plus ou moins grosse machine derrière. Ça, c'était intéressant de voir les suites de conversations.
Mais j'ai trouvé ça vachement bien d'ailleurs. C'est Zerator qui est un des plus gros au niveau français. Il a tout de suite pris le sujet en main sur Twitter en disant bah oui les chiffres ils sont vrais mais attention il a expliqué longuement justement que bah en fait c'est faut plus le considérer comme le chiffre d'affaires d'une société de production et absolument pas comme son revenu quoi. Ouais. Donc
allez, de toute façon nos services d'impôt sur le revenu vont s'intéresser de très près à ces exports de données massifs. Ils vont pouvoir.
C'est la deuxième qui se coule. J'irai regarder du côté des Pandora Papers avant, tu vois.
Oh ouais, non mais là t'en demandes de trop, là c'est moins intéressant là. Bizarrement, il y a
les Pandora Papers, je sais pas, mais est-ce que tu as le droit d'aller prendre les infos qu'on liquait illégalement parce que c'est quand même du vol de d'informations.
Ah je sais pas.
Et de les utiliser.
Après, ils vont te dire qu'ils font un contrôle inopiné sur ta personne et que tu ne sauras pas pourquoi, oui. C'est tout. Tu sais, c'est... Tiens, veuillez m'expliquer ces quelques millions que vous avez reçus via Twitch. Ouais, je ne sais pas. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Enfin.
Donc voilà.
En tout cas, ouais. Compliqué encore. Ouais. Donc Twitch, ouais, ils en bavent là. Et effectivement, le service, lui, il est up pour le coup. Mais alors, la société... maintenant, c'est quoi? C'est une filiale d'Amazon. Tire un peu la tête.
Voilà, voilà. Et donc, c'est la fin de ces news. Il y a quelques conférences qui arrivent bientôt. Il y a le DevFest Nantes qui aura lieu les 21 et 22 octobre 2021. Mm-hmm. Le DevFest Lille le 19 novembre 2021. Mm-hmm. Et SunnyTech qui revient les 30 juin et 1er juillet 2022 à Montpellier. Alors bon, c'est un peu tôt pour prendre sa place, mais si vous voulez être sponsor, si vous voulez commencer à réfléchir à un talk que vous aimeriez donner là-bas, et ben voilà.
Ah, moi, je veux bien venir au soleil. Hein,
Audrey.
Pardon ?
Est-ce que tu t'es fait embarquer, Audrey ?
J'ai dit, je viendrai donner un coup de main, mais je veux pas trop.
Tu es une professionnelle pourtant, tu vas pouvoir les aider, ça va être brillant. Attends.
Oui, mais j'ai déjà Mixit et Devox UK, et en plus ça va tomber au même moment cette année. Donc...
Ah, flûte.
Donc, bon. Voilà. Et la, puis, la fameuse règle des pas plus de 4 projets
virtuel,
perso.
Du coup, comme ça tu peux faire les 3.
Ah non, ah non, moi j'en ai marre des comptes virtuels, hein, c'est fini, hein, ras le bol. Voilà, ouais. Et ben c'était tout pour cet épisode news.
Ouais, merci. Merci à vous de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et puis, normalement, la prochaine, c'est la première partie de l'interview sur GraalVM. A été filmé sur ce projet. Voilà. Au revoir à tous.
Salut.
Au revoir.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.